Sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafon. Cette semaine, il y a 7 nouveautés. Anora, L'Art d'être heureux, Juré numéro 2, Venom The Last Dance, Rivière, Totem et Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. Pour la programmation musicale, ça n'était pas très compliqué cette semaine puisque il était facile de trouver un grand nombre de titres dans le film Anora. Et donc, on va commencer par un titre que l'on entend, je crois que c'est dès le début du film, c'est le groupe Take That, s'appelle Greatest Day, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Could be the greatest day of our lives. Before it all ends, before we run out of time, stay close to me, stay close to me. Watch the world come alive tonight. Tonight this could be the greatest night of our lives. Let's make a new start. The future is ours to find. Can you see it? Can you see it? Can you see it in my eyes? Can you feel it? Oh, can you feel it? Can you hold?
Take That, Greatest Day, un titre que l'on entend au tout début du film Anora. Mais justement, c'est le moment d'en parler d'Anora. Le film est proposé au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au cinéaste. Au cinéaste, c'est 3 séances en version originale, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. C'est des séances en VO, des séances en VF. Le réalisateur, c'est Sean Baker, réalisateur, scénariste, producteur américain en 1971. Ses premiers films ont été longtemps inédits en France. Je dis longtemps parce que, par exemple, Four Letter Words, qui est son premier film, sort cette semaine avec une ou deux séances, pas plus, au cinéaste. Ça sera pareil, je pense, d'ailleurs, pour les autres films, comme Take Out, Prince of Broadway et Starlet, et puis les autres films de Sean Baker sont sortis, puisque moi je les ai vus en 2015, Tangerine, et en 2017 The Florida Project avec Willem Dafoe, et 2021 Red Rocket. Pierre, parle-nous de Anora. Comment ça? Voilà.
Ah, durée 2h19. Avertissement, ce film est interdit au moins de 12 ans. Le synopsis: Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. La revue de presse, Cinématiseur avec Renan Cross. Portée par l'énergie d'un casting brillant qui donne tout, Anora s'impose comme le meilleur film de Sean Baker et le meilleur d'un cinéma indépendant américain capable de faire du grand cinéma avec des personnages et des récits pas formatés, tout ça en regardant l'Amérique et ses fictions de travers. Que demander de plus ? Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpech. Le récit nous entraîne dans des directions inattendues, joue sur les ruptures de ton et ne cesse de se réinventer sans aucun temps mort, pathos ni jugement moral. Ouest France avec Philippe Lemoine, une pure comédie déjantée. Écran large avec Alexandre Janoviak. Anora est le meilleur film de Sean Baker, une odyssée enivrante, hilarante et déchirante qui déconstruit un peu plus l'American Dream. Elle, avec Françoise Delbecq, dans ce film drôle, enlevé et déjanté, Mickey Madison irradie à chaque plan. La Croix avec Céline Rouden, un conte de fées des temps modernes, tout en énergie survoltée, matinée de thriller et de comédie, mais aussi une satire puissante du capitalisme. Le Figaro, avec Anora, Sean Baker passe du trivial au sentimental, du rire au serment de cœur, avec un naturel rafraîchissant et une sincérité qui fait mouche. Il en résulte un film qui étonne et réjouit par sa tonalité. On lit la patte d'un cinéaste. Le Parisien avec Renaud Baronian. Très réussi, formidablement interprété. Sean Baker a le chic pour révéler d'épatants comédiens atypiques. Ici, l'incroyable Mickey Madison, 25 ans, sidérante d'énergie. L'iconoclaste et déjanté Anora n'a certainement pas volé sa palme. Les Échos avec Adrien Gombeau. Fable new-yorkaise et vrai conte cruel sur les travailleuses du sexe, Anora est un beau film tissé d'humour et de mélancolie, lesté d'une palme d'or surdimensionnée. Paris Match avec Yannick Velli. Voici donc la palme d'or du dernier festival de Cannes. Un film généreux, grand public, avec un cœur gros comme ça et des acteurs fabuleux. Et enfin Télérama avec Samuel Douer. L'énergie communicative du film, malgré une durée excessive, doit beaucoup aussi à la prestation ébouriffante de son actrice principale.
Voilà, donc ça s'appelle Anora, c'est proposé aux cinéastes, aux méga CGR et aux Pathé Quinconce. Cinéastes, 3 séances en VO par jour, Pathé Quinconce et méga CGR, de la VF bien sûr et de la VO. Anora, Annie, exerce un métier, on va dire, entre la stripteaseuse et l'escort girl dans un nightclub privé à New York. Un jour, lors d'une prestation, elle fait la connaissance de Ivan, un jeune fils à papa ultra friqué, rejeton d'un richissime oligarque russe. Alors, fort satisfait de ses services, eh bien, Ivan décide de l'engager pour, tout simplement pour une semaine, tout simplement une semaine, et il l'amène dans sa somptueuse villa. Et comme Anora lui plaît beaucoup, eh bien, il lui propose même de l'épouser lors d'une virée à Las Vegas. Pour Anora, eh bien, c'est l'espoir de s'en sortir, d'autant qu'elle semble réellement éprise d'Ivan. Voilà. Mais quand les parents du garçon l'apprennent, eh bien, ils sont loin d'être enchantés et décident de débarquer à New York pour faire annuler le mariage. Entre-temps, ils ont confié la garde des deux tourtereaux à leurs hommes de main. Voilà, donc ça c'est le film, c'est le début du film. C'est un film très plaisant, ultra rythmé, sauf dans sa dernière partie, sans doute peut-être un petit peu trop longue, mais pendant au moins 2 heures, le film fait 2h20 à peu près, pendant 2 heures, le film va à 100 à l'heure, souvent très drôle, avec ses bodyguards complètement dépassés par les événements, et le pétage de plomb quasi permanent d'Anora et de son boyfriend Ivan. Un film qui commence comme une sorte de conte de fées moderne. C'est vrai que pour plusieurs critiques, on parlait de Pretty Woman, oui, c'est vrai, qui se poursuit comme une course-poursuite et qui s'achèvera dans l'amertume et la désillusion, on va pas en dire trop. C'est un film entre comédie romantique, film de gangster et retour à la réalité. Un film avec de nombreuses ruptures de ton, plein d'énergie avec la découverte de quelques acteurs assez incroyables comme cette jeune Mickey Madison qui joue Anora. J'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si le film marquera autant que Anatomie d'un crime ou Parasite pour parler des récentes Palmes d'Or, mais c'est largement supérieur à la Palme d'Or au niveau du palmarès du dernier festival de Cannes avec des films comme le film indien dont je ne me souviens plus le titre qui avait obtenu un grand prix du jury. Je n'avais pas compris pourquoi. Je recommande donc sans restriction cette comédie, mais ça n'est pas tout à fait une comédie, et c'est quand même un film grand public, c'est pas toujours fréquent avec les Palmes d'Or. Pierre.
Alors là, c'est le top du top pour moi en matière de cinéma. Contrairement à certaines années récentes, là, la Palme d'Or est bel et bien méritée. Ce film est sexy, drôle, ce qui est plutôt rare dans les Palmes d'Or d'ailleurs, en ce qui concerne la drôlerie. On rit beaucoup en effet tout au long de cette histoire rocambolesque. L'interprétation est magistrale. L'interprète d'Anora, Mickey Madison, est extraordinaire. Selon moi, c'est elle qui aurait dû avoir le prix d'interprétation féminine à Cannes.
Eh oui, mais je crois qu'on n'a pas le droit de faire un doublon.
Non, mais oui, mais pourtant, il y en a eu plusieurs qui ont le prix d'interprétation féminine cette année. Le film d'Emilia Pérez.
Oui.
J'ai aimé ce film de bout en bout, y compris l'image de fin, aussi surprenante qu'inattendue. D'ailleurs, cette fin laisse le spectateur dans la pensée, puisque le générique, pour une fois, qui suit, eh bien, se déroule dans le silence total. En ce qui me concerne, c'est le film de l'année 2024. Oula. Ah oui, carrément. Ouais. Je suis sorti vraiment émerveillé. À voir donc absolument, mais sans les enfants.
Oui, bien sûr. De toute façon, c'est pas recommandé pour les enfants. Tu l'as vu en VO ?
Oui.
Je pense
tout à
qu'il
fait.
Faut voir le film en VO, absolument, parce que bon. Et il fait 2h20, hein, donc t'as tenu 2h20.
J'ai tenu parce que bon. C'était vraiment bien.
T'es bien parti pour aller voir finalement L'amour ouf,
peut-être,
je pense.
Peut-être.
Voilà. L'art d'être heureux, c'est un film franco-belge, enfin disons belge, de Stéphane Liberski. Stéphane Liberski, c'est un réalisateur, scénariste et acteur belge. Donc, il a à son actif un court-métrage et puis en 2004, un premier long-métrage avec Jean-Paul Rouve qui s'appelait Bunker Paradise. 2018, En chantier, Monsieur Tanner, mais ça avait été en VOD, je crois que c'était avec Jean-Paul Rouve. 2014, Baby Balloon, co-réalisé avec Dominique Laroche, et 2015, Tokyo Fiancé, avec Pauline Étienne. C'était pas si mal que ça, d'ailleurs, Tokyo Fiancé. 1h50 pour ce film qu'on peut voir exclusivement au Méga CGR, et encore pas beaucoup de séances par jour. Généralement, il y a que 2 séances par jour. Jean-Yves Marchand, c'est Benoît Poulvorde, peintre mondialement méconnu et globalement malheureux, décide un jour de changer de vie. Il va chercher l'inspiration dans une petite ville normande afin de concevoir un chef-d'œuvre qui lui vaudra enfin gloire et reconnaissance éternelle. Ça, c'est pas si clair que ça dans le film. Hein. Mais sa rencontre avec les artistes locaux, du chaleureux Bagnoul à l'habile Cécile, va quelque peu le faire dévier de son chemin et le mettre face à son rêve le plus profond, celui d'être un homme heureux, tout simplement. La revue de presse, eh bien, Carl Nivier, dans 20 minutes, déclare que c'est une comédie tendre et féroce. Thierry Chaz en première, Benoît Poulvorne incarne à merveille cette vulnérabilité à fleur de peau, source d'autant de moments tendres que burlesques, aidé par la joyeuse bande qui l'accompagne, François Damiens, Gustave Kervern, Camille Cotin, se délectant des situations nées de la plume riche en fantaisie de Liberski. Guillaume Loison dans l'Obs, portrait d'un artiste inhibé, ce Poulvorne de film démarre si fort qu'on croit d'abord qu'il va se hisser à la hauteur des meilleures comédies noires, transcendé par le génie de Namur à l'horizon, à l'orée des années 2000. Et puis non, à la tendresse bêta l'emporte, hélas, sur l'ironie claquante. Guimet Odissino dans Télérama, l'histoire, un artiste radical méconnu s'installe en Normandie en quête de renouveau, n'a que peu d'importance, car cette comédie trop longue, gentiment frappadingue, sert avant tout de prétexte à un grand numéro de Benoît Poulvorde. Corinne Renoud dans Nativelle dans la Croix, une comédie poussive sur le statut d'artiste. Oui, alors j'ai vu donc cet art d'être heureux, donc il est question de Jean-Yves Marchand. Jean-Yves Marchand, c'est un peintre un peu renommé et surtout assez prétentieux. Il décide d'aller s'installer sur la côte normande afin d'y trouver l'inspiration. Et là, il y fait la connaissance de ce qui constitue le petit milieu artistique du coin, des peintres comme lui ou des galeristes locaux, et notamment Cécile, dont il tombe amoureux illico presto, sans que ce soit d'ailleurs vraiment réciproque. C'est une comédie qui fait pas rire. Eh oui, alors c'est un peu gênant, une comédie qui fait pas rire, d'autant qu'elle est bien trop longue. 1h50, c'est rare qu'une comédie tienne la distance sur 1h50. Bon, certes, elle égratigne gentiment le milieu de l'art, mais ça reste quand même plutôt bienveillant, c'est pas très très acerbe quand même. Le film est finalement qu'une galerie de portraits de personnages loufoques, excentriques, et tient surtout par la performance de ses acteurs principaux, donc François Damiens, Camille Cotin et surtout Benoît Poulvorde, qui cabotine à outrance en jouant ce peintre à la fois excentrique et vulnérable. Donc, un film qui suscite un minimum de sympathie, oui, mais bien peu d'intérêt, tant ses enjeux sont anecdotiques, pour ne pas dire insignifiants. Donc là, cette fois-ci, je ne recommande pas vraiment, sauf aux fan clubs de Benoît Poulvorde, qui là seront, c'est sûr, satisfaits, parce qu'il est, comme à son habitude, assez extraordinaire dans ce rôle de peintre, on ne va pas dire peintre maudit, parce que ce n'est pas vraiment le cas, mais enfin voilà. Donc c'est au Méga CGR, uniquement au Méga CGR. Pause musicale, eh bien à nouveau, on repart dans la BO de Anora, et cette fois-ci, on écoute DMX, c'est le nom du rappeur, Wear the Hood Hat. Alors, je ne saurais pas trop vous qualifier, vous traduire ça. Wear the Hood. Hood, c'est la bande, hein, plus ou moins. Où est la bande, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas. On verra bien ce que vous en pensez de ce titre sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Fucking with a nigga like me, D to the M to the X. Last I heard, yeah, niggas was having sex with the same sex. I show no love, the homo thug. Empty out, reload, you throw most slugs. How you gonna explain fucking a man? Even if we squash the beef, I ain't touching the head. I don't fuck with chumps. For those that been to jail, that's the cat with the Kool-Aid on his lips and pumps. I don't fuck with niggas that think they bras. Only know how to be one way, that's the dog. I know how to get down, know how to bite. Bark very little, but I know how to fight. I know how to chase a cat up in a tree. Man, I gave y'all niggas the business for fucking with me. Is she crazy?
Where the hood at? Had a nigga in the cut with the wood at? All the niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Where the hood at? Had a nigga in the cut with the wood at? All the niggas acting up, where the wolves at? You better bust that if you gon' pull that. Guns are strong, blah blah. Lungs are strong, sons of Mars, from dusk to dawn. Nighttime belongs to the dog. On the street past midnight, look for him in the mall. Don't play with these cats, cause I ain't got nothing to say to these cats. For the mothers that really do love them, please pray for these cats. Cause I know niggas is hard headed, but I ain't got the patience. Don't want me having no patience, turning to more patience. More sense to ICU, cause ICU. Trying to get away with shit a real nigga wouldn't do. Where my dogs at? See them niggas? Get them, boy. That's how we do. Yeah, this is for my dog. This is for my dog. Yo, where we at, baby? From then till now, don't ask me how. Know that we gon' roll like the niggas in here. 8 o'clock on the shot.
Where the hood at? Hood at?
Yo.
Yo, X, got some bad news.
Kato's dead, man.
What?
Yeah, Kato's dead, man.
You can't be serious, man.
Out to my dog Kato. Rest in peace, baby. It's the King thing.
Dogs that I call my friends, praying for all my friends, things I do for my friends.
We miss you.
Two dogs with the same goals. Nothing but two dogs walking the same road. Two different cultures, but had the same heart.
Yeah.
Enjoyed seeing the light, but lived in the dark. Fifth album bumped heads in the parking lot. Was a quiet brother, didn't like to bark a lot. Came correct. When he came, gained respect. So I gave respect. We shared the same respect. Two names to threaten our own circles.
What?
Two brothers with good heart. But if you start, two brothers that'll hurt you.
Yeah.
Know how that dirt do, hitting four corners. Right back up on us. God tried to warn us, but sometimes we don't see. When I first heard, I'm like, this can't be. Y'all niggas bugging, got the wrong information or something. Please tell me that these niggas
niggas is front, God knows. Dolls that I call my friends, praying for all my
Where the Hood, Hood, c'est le quartier, finalement, j'ai regardé la traduction. Where the Hood at BMX, et c'est un titre que l'on entend dans le film Anora. Juré numéro 2, juré numéro 2, là, on est reparti au méga CGR, au Pâté Quinconce et au cinéaste, deux séances par jour ou trois de la VO, bien entendu, exclusivement, chez CGR, Méga et chez Pâté Quinconce, de la VO et de la VF. C'est un film de Clint Eastwood. Clint Eastwood, réalisateur, producteur, mais évidemment acteur également, compositeur aussi de musique. Il est né en 1930. C'est son à peu près 40e film. On ne va pas faire les 40 films, on va en citer quelques-uns. Le premier en 72, Un frisson dans la nuit. Et puis on va citer, ben, par exemple, je ne sais pas, l'époque des westerns. Il y avait L'homme de haute plaine, José Wells, Hors la loi, Pale Rider. Et puis d'autres films qui lui valent une renommée auprès des critiques, ce qui n'était pas acquis au départ. 88, Bird avec Forest Whitaker. 92, par exemple, Impitoyable, qui lui avait valu un Oscar avec Gene Hackman, Morgan Freeman. Sur la route de Madison, un film mythique avec Meryl Streep. Puis après, on va citer Minuit dans le jardin du bien et du mal avec Kevin Spacey, qui se passe au même endroit que ce juré numéro 2. Et puis, eh bien, Mystic River avec Sean Penn. Million Dollar Baby, là aussi, c'est oscarisé avec Hilary Swank et Morgan Freeman. Mémoire de nos pères et lettres d'Iwo Jima. C'était en 2006-2007. Puis Gran Torino en 2009, exceptionnel film Gran Torino. 2010, Invictus avec Morgan Freeman et Matt Damon. Et puis la biographie de Hoover, J. Edgar avec Leonardo DiCaprio. Allez, on va parler des cinq ou six derniers. American Sniper avec Bradley Cooper et Sienna Miller en 2015. Sully avec Tom Hanks et Aaron Eckhart en 2016. 2018, le 15h17 pour Paris. 2019, La Mule avec lui-même et Bradley Cooper. 2020, le cas de Richard Jewell avec Sam Rockwell. Et puis en 2021, Cry Macho avec lui-même, que j'avais pas trop aimé. C'est l'un des rares films de Eastwood que je n'ai pas trop apprécié. Pierre, parle-nous de juré numéro 2.
Durée 1h54 avec Nicolas Hoult, Tony Collette et Zoé Deutsch. Le synopsis, alors qu'un homme se retrouve juré d'un procès pour meurtre, il découvre qu'il est à l'origine de cet acte criminel. Il se retrouve face à un dilemme moral entre se protéger ou se livrer. La revue de presse, Elle, avec Françoise Delbecq, une mise en scène très sobre, avec une émotion palpable qui monte en crescendo jusqu'à la scène finale spectaculaire, dont la symbolique est totalement inattendue. Ce film est peut-être le dernier d'Eastwood, mais l'un de ses plus aboutis, c'est Juré. Le point, en ces temps de binarité mortifère nourrie par les réseaux sociaux, parasitant toute nuance et vérité dans le rendu de la justice, la démonstration paisible mais ferme de Juré numéro 2 fait un bien fou et se clôt sur un plan d'une force dévastatrice que l'on n'est pas prêt d'oublier, à voir de toute urgence. Le Figaro avec Eric Neuhoff. Pour son 42e film, le réalisateur américain âgé de 94 ans plonge dans le film de procès, un huis clos qui lui réussit parfaitement. Le Monde avec Jacques Mandelbaum. À 94 ans, le réalisateur américain livre un film de procès complexe au scénario retors dans une filiation assumée avec 12 hommes en colère de Sidney Lumet. Les Échos avec Olivier De Bruyne, une ultime réussite. Télérama avec Louis Guichard, à travers l'histoire captivante d'un juré qui découvre sa responsabilité dans la mort de la victime, Clint Eastwood traite magistralement de la justice. Libération avec Didier Perron, le cinéaste signe un film old school au scénario improbable avec un Nicolas Hoult juré de tribunal en proie à un dilemme moral. Et enfin Paris Match avec Fabrice Leclerc, pas désagréable à regarder mais tellement attendu.
Voilà, ça s'appelle Juré numéro 2, c'est proposé aux cinéastes uniquement en VO, c'est proposé également au Pâté Quinconce et au Méga CGR, là il y a VF et VO. Juré numéro 2, comme je le dis à chaque fois, eh ben, il faut être une vraie quiche pour rater un film de procès, et Clint Eastwood n'en est pas une de quiche. Et donc, on peut dire sans hésitation qu'il a réussi cet exercice du film de procès. Justin Kemp a été sélectionné pour être juré lors d'un procès où un homme est accusé d'avoir tué sa compagne après une dispute dans un bar. Et Justin Kemp découvre lors des débats qu'il est sans doute celui qui a accidentellement tué cette femme. S'ouvre alors pour lui un inévitable et terrible dilemme. Ne rien dire, au risque d'envoyer un innocent en prison, ou avouer et perdre l'existence heureuse qu'il s'apprête à vivre avec sa femme et leur bébé à naître. Le film, évidemment, est un film sur le sentiment de culpabilité, sur les arcanes de la justice américaine, avec ses débats entre procureurs et avocats, arbitrés par un juge, où chacun avance ses arguments avec les fameux « objections, votre honneur hein, ». On connaît ça, bien entendu, même si c'est très différent de la justice française. Par exemple, là, les procureurs sont élus par la population, et donc ils sont en campagne électorale, et donc ils doivent jouer absolument leur rôle de gardien de la sécurité du pays. C'est joué par Toni Collette, elle est d'ailleurs excellente dans le film. Certes, la facture du film est ultra classique, hein, on ne faut pas compter sur Clint Eastwood pour les mouvements de caméra virtuoses et les constructions complètement éclatées, mais cette mise en scène, elle est au service de l'histoire, elle est limpide, elle est précise. Alors on passe forcément à un moment du film, au fameux film 12 hommes en colère, avec cette longue séquence des délibérations du jury. C'est un film qui est sobre, c'est un film parfaitement interprété. J'avais été très déçu par Cry Macho, précédent film d'Eastwood. C'est pas le cas ici, moi je trouvais ce film passionnant de bout en bout, sur la justice des hommes et ses fragilités. Pierre alors ?
Alors je vais être beaucoup moins empathique qu'avec Anora.
Ah.
Voici donc encore un énième film sur le système judiciaire américain. Son tribunal, ses plaidoiries, ses débats interminables des jurés. J'ai l'impression d'avoir vu ça 100 fois, en fait.
Ah bah oui.
De plus, on connaît d'entrée de jeu le véritable coupable. Oui, je me suis beaucoup ennuyé durant les trois quarts du film. Bah oui. Non, je n'ai absolument rien contre, évidemment, Clint Eastwood, qui est un très bon acteur et aussi réalisateur de très bons films. Mais là, c'est le thème qui m'a dérangé. Il n'y a que la dernière partie qui m'a quelque peu intéressé, et surtout la dernière image qui a été soulignée d'ailleurs dans les critiques aussi. Bref, ce n'est pas le film que je vais vous conseiller cette semaine.
Ah, on a compris. D'accord. Juré numéro 2 au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Cinéaste. Venom, The Last Dance. Là, c'est au Colisée, au Méga CGR et au Pathé Quinconce. Il y a au moins une séance en VO au Colisée. Les autres cinémas, j'ai pas fait trop attention. C'est un film réalisé par Kelly Marcel, réalisatrice, scénariste, productrice américaine née en 76. C'est son premier long métrage distribué. Elle avait été scénariste des Venom précédents. Elle était aussi scénariste de Cruella, de La Petite Sirène, de 50 Nuances de Grey. Donc quelqu'un qui a réalisé des scénarios, enfin qui a écrit des scénarios de films qui ont marqué. Voilà, donc Kelly Marcel, réalisatrice de Venom, The Last Dance, ça dure 1h50, c'est avec Tom Hardy. Alors, le synopsis, c'est bien, Eddie et Venom sont en cavale. Alors évidemment, si vous avez jamais vu un film de Venom, vous savez pas que c'est Venom. Venom, c'est une sorte d'entité qui est à l'intérieur de Eddie. Ouais, bon, et ben, si c'est plus clair pour autant. Chacun est traqué par ses semblables et alors que l'étau se resserre, le duo doit prendre une décision dévastatrice qui annonce la conclusion des aventures d'Eddie et de Venom. Stéphanie Belpech, dans le Journal du Dimanche, parle d'un divertissement désinhibé, drôle et rythmé, enlevé par une BO fédératrice. Ça, je ne pourrais pas vous le confirmer parce que je ne suis pas allé voir le film. C'est bien la seule à avoir apprécié parce que Deborah Lechner dans Écran Large déclare que Venom, The Last Dance, c'est ce tonton gênant qu'on esquive au repas de famille ou ce collègue relou avec qui on ne veut pas prendre l'ascenseur. Bon, ça veut tout dire. Renaud Baronian dans Le Parisien parle d'un Marvel complètement raté. Sandra Onana dans Libération, d'une spectaculaire nullité.
Oh.
Le troisième volet à gros budget de la saga Sony Marvel se résume à un buddy movie familial, sans âme et sans enjeu. Pour avoir vu le premier Venom, ça m'a suffi. Donc le deuxième, je l'ai vu à la télé et c'était pareil. Donc je ne me suis pas infligé le troisième. Même en VO, je ne suis pas allé voir Venom The Last Dance. C'est un film pour ados essentiellement, ou adultes très très attardés. Et c'est à voir donc au Colisée,
au Méga CGR
et au Pathé Quinconce. Voilà. Petite pause musicale, toujours dans Anora. On entend énormément de musique dans Anora.
Oh oui.
Donc, I'm the Queen. Et le groupe s'appelle That Chic. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
I'm the queen, yeah. They bowing down when I step on the scene, yeah. And you should get in line to kiss the ring, yeah. Cause everybody knows that I'm the queen, yeah. I'm the queen, yeah. Didn't your mama teach you how to act in front of royalty? Can't trust anybody cause nobody got no loyalty. And nothing but the menace, I'm a blessing to society. Stepping over peasants, no, you'll never get as high as me. Freeze frame, snap it for a keepsake. A picture's worth a thousand words, but mine says let them eat cake. Power, fame, and money, it's my favorite kind of three-way. I'm just getting started, baby, I can do this all day. Why? I'm the queen, yeah. They bowing down when I step on the scene, yeah. And you should get in line to kiss the ring, yeah. Cause everybody knows that I'm the queen, yeah. I'm the queen, yeah. Show me some respect when you address me, say your majesty. Better learn your place, cause if you don't, it'd be a travesty. Never one to lose my head, I roll up in a limousine. Smile to your face and then I send it to the guillotine. Freeze frame, snap it for a keepsake. A picture's worth a thousand words, but mine says let them eat cake. Power, fame, and money, it's my favorite kind of three-way. I'm just getting started, baby, I can do this all day. Why? I'm the queen, yeah. They bowing down when I step on the scene, yeah. And you should get in line to kiss the ring, yeah. Cause everybody knows that I'm the queen, yeah. I'm the queen, yeah. I'm the queen. I'm the queen. I'm the queen. I'm the baddest of them all. Said I'm up and watch them fall. If you think I'm icy now, you should see me in a crown. I'm the baddest of them all. Said I'm up and watch them fall. If you think I'm icy now, you should see me in a crown. I'm the queen, yeah. They bowing down when I step on the scene, yeah. And you should get in line to kiss the ring, yeah. Cause everybody knows that I'm the queen, yeah. I'm the queen, yeah. I'm the queen, yeah. They bowing down when I step on the scene, yeah. And you should get in line to kiss the ring, yeah. Cause everybody knows that I'm the queen, yeah. I'm the queen.
Eh bien, c'est I'm the Queen et c'est interprété par That Chic. Voilà, si on entend ça dans Anora. Rivière, Rivière, c'est un film de Hugues Harisch. Hugues Harisch, réalisateur scénariste, et c'est son premier long métrage. Auparavant, il avait réalisé deux courts métrages, durée 1h44, et le film proposé uniquement au Colisée. Manon, 17 ans, quitte les montagnes suisses à la recherche de son père, introuvable. En formant de nouveaux liens et en découvrant son premier amour, elle est déterminée à suivre le chemin qu'elle s'est tracé sur la glace, devenir une joueuse de hockey professionnelle. Olivier de Bruyne dans Marianne parle d'un premier essai prometteur. Johan Haddad dans Télérama, ce premier long-métrage s'impose comme un portrait subtil du monde adolescent. Vincent Ostria dans L'Humanité, un drame bien tenu et harmonieux, mais qui court trop de lièvres à la fois pour convaincre complètement. Et Lucie Chiquer dans Première, une bonne base pour un coming of age qu'Hugues Harisch gâche, hélas, par la faiblesse de l'écriture de ses personnages féminins, en voulant autant aborder le lesbianisme que le sport ou même la santé mentale, il s'en mêle les pinceaux et finit par enchaîner les banalités. Le film, donc, je le répète, est proposé uniquement au Colisée. Je crois qu'il y a deux ou trois séances par jour. Ça dure 1h44 et nous n'avons pas vu Rivière.
Non.
Pas plus que nous n'avons vu Totem, qui lui aussi est proposé par le cinéma, le Colisée. Totem, c'est réalisé par, ben Pierre va nous le dire,
Lila Aviles.
Et réalisatrice, scénariste, productrice mexicaine, qui avait réalisé en 2018 La Cabarista. Pierre, dis-nous quelque chose sur Totem.
Durée 1h35 avec Danima Santies, Montserrat Maragnon et Marisol Gassé. Le synopsis, Sol, une fillette de 7 ans, est emportée dans un tourbillon de préparatifs menés tambour battant par ses tantes pour l'anniversaire de son père Tona. Au fil d'une journée dont le point d'orgue est un événement aussi redouté qu'attendu, Sol comprend peu à peu la gravité de cette célébration. La revue de presse, Le Monde. Sélectionné en compétition à la Berlinale en 2023, Totem est cru, vivant, jamais sinistre. Ouest France, avec Thierry Chaise, un grand et beau film sur la sortie brutale de l'enfance. Cahier du cinéma, avec Ariane Schweitzer, l'expression du regard singulier d'une cinéaste qui, à travers ce récit d'apprentissage, décrit délicatement la formation d'une personnalité autonome. L'Obs avec Xavier Le Herpeur, les préparatifs d'une journée d'anniversaire observée par Sol, fillette de 7 ans, pertinent et insolent point de vue pour raconter les fractures sourdes et les hypocrisies larvées d'une famille surjouant la carte de l'unité, une révélation.
Voilà, donc le film proposé avec une seule séance par jour au Colisée, et c'est en VO, c'est un film mexicain, donc c'est en espagnol, forcément. Voilà, nous n'avons pas vu Totem. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, c'est un film d'animation d'un réalisateur qui s'appelle Gins Zilbalodis. Gins Zilbalodis, comme son nom l'indique, il est d'origine lettonne. Oui, lettonne. Il a réalisé auparavant, en 2019, un autre film d'animation qui s'appelait Ailleurs. Et donc, il est réalisateur, directeur de la photo. Son film est proposé uniquement au cinéma Les Cinéastes, dans le cadre de Grand Image Junior notamment, avec une voire deux séances par jour. C'est un film d'animation, durée 1h25. Un chat se réveille dans un univers envahi par l'eau, où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d'autres animaux, mais s'entendre avec eux s'avère un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l'eau. Tous devront désormais apprendre à surmonter leurs différences et à s'adapter au nouveau monde qui s'impose à eux. Alors, ce film, il est proposé uniquement aux cinéastes et il a des critiques qui sont absolument dithyrambiques. Et il y a beaucoup de critiques qui ont vu le film. Donc, je ne l'ai pas vu parce que je ne suis pas un grand fan de films d'animation.
Bah, moi non
mais
plus.
Ça m'intrigue un petit peu. Un film d'animation d'1h25 d'un réalisateur letton. Mais je vais vous lire la revue de presse. Vous allez voir, c'est unanimement élogieux. Le Parisien Renaud Barognan, un film choc, sans personnages humains et sans dialogue, du jamais vu. Adrien Gombeau, les cinéastes, les échos. Le cinéaste letton signe un film d'animation virtuose et à travers des bêtes, un portrait de notre humanité. Olivier de Bruyne dans Marianne parle d'un film d'animation sublime. Thierry Chaise dans West France d'un film d'animation sans dialogue, d'une puissance visuelle inouïe. Vous voyez, hein, c'est assez élogieux. Mais c'est pas assez élogieux, c'est très élogieux. Et on continue avec Cécile Murie, Télérama, un choc esthétique et une ode hypnotique à la nature. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, une fresque majestueuse et épique. Le Journal du Dimanche, Stéphanie Le Belpèche, un joyau de pureté, de délicatesse. Vous voyez, on continue. Olivier Delcroix dans Le Figaro, onirique, imaginatif, toujours en mouvement. Voici un film d'animation d'un nouveau genre. Flow s'apparente en effet à une expérience sensorielle inédite. Comment ne pas s'émerveiller devant le second film d'animation du jeune letton Gins Zilbalodis. Laura Tuillier dans Libération. Si l'animation en 3D est stupéfiante de réalisme en ce qui concerne les animaux, il nous plonge dans un univers visuel fabuleux, des ruines émergeant des eaux, des colonnes de pierre vertigineuses, une forêt qui revit. Le trait narratif est elliptique et convoque une ambiance planante, calquée sur un rythme et une logique de vie qui nous est totalement étrangère. Et on termine avec Fabrice Leclerc, mais on pourrait en citer bien d'autres. Fabrice Leclerc dans Paris Match, ce deuxième long-métrage du réalisateur letton, vaut tous les grands discours, tant il a l'intelligence du cœur, et il conclut par le terme de magnifique. Vraiment, ça donne envie d'aller voir ce film, qui n'est peut-être pas finalement uniquement un film pour enfants, même s'il est présenté dans le cadre Grand Image Junior. Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, cinéaste, une ou deux séances par jour, 1h25, ça m'intrigue un petit peu. Je ne sais pas si je vais trouver le temps pour éventuellement aller jeter un œil pour voir ce film. Allez, avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, les avant-premières, encore un petit titre que l'on entend dans le film Anora. Le titre s'appelle Départ et c'est interprété par Red Hammer sur Radio Alpa, dans 7.3 FM Le Mans.
Подойди поближе, возьми ладонь мою, и сразу ты услышишь в сердце то, что храню. И нас никто не держит, все нужды нас твои. Держи меня покрепче, и полетим, улетай. Я чувствую словно с землей, только знай. Этой ночью ты только мой, я ничего не скрою. Новые миры. Улетай.
мечты исполню я. Ты потерплю разлуку вместе навсегда.
S'appelle Départ et c'est chanté par Red Hammer et un titre que l'on entend dans le film Anora. Alors, les avant-premières, si vous nous écoutez en direct, eh bien aujourd'hui, vendredi 1er novembre, c'est l'avant-première dans les trois cinémas de Colisée, Méga et Pathé du film Louise Violet. Louise Violet, c'est un film d'Éric Bénard avec Alexandra Lamy et Grégory Gadebois. C'est un film qui se passe sous la Troisième République. C'est l'histoire d'une institutrice qui arrive dans un village. Voilà, donc. Alors, les horaires pour le Colisée et le Pathé Quinconce, c'est à 18h. Et au Méga CGR, c'est à 20h. Et si vous restez au Pathé Quinconce, eh bien, vous pouvez enchaîner à 21h30 avec le film The Substance, avec la VO, un film de Coralie Farja avec Demi Moore, qui a fait beaucoup parler de lui au Festival de Cannes cette année, qui sortira le 6 novembre. Alors, les films qui sortent donc le 6, et dont on parlera la semaine prochaine. The Substance, donc, avec Coralie Farja avec Demi Moore, Dennis Quaid. Trois amis d'Emmanuel Mouret. Moi, je l'ai déjà vu en avant-première. J'aime beaucoup Emmanuel Mouret. Et ça ne m'a pas fait changer d'avis sur lui. C'est avec Camille Cotin, Sarah Forestier et India Air. C'est très très bien, mais c'est tout à fait dans le style habituel d'Emmanuel Mouret. Autre film que j'ai déjà vu en avant-première, c'est À toute allure. C'est une comédie romantique que j'ai adorée. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu une comédie romantique qui me plaise à ce point-là. Avec Pio Marmaille, et Eye Haidara et José Garcia, excellent dans un petit second, enfin dans un second rôle de commandant d'un sous-marin. Ça, c'est vraiment la comédie romantique à voir. Pierre, je t'incite vivement à aller voir ce film-là.
Oui.
Il y aura Louise Violet, donc, dont je vous parlais à l'instant, d'Éric Bénard avec Alexandra Lamy. Il y aura aussi un film de Robert Zemeckis, et oui, le vieux routier du cinéma Robert Zemeckis. Ça s'appelle Here, les plus belles années de notre vie avec Tom Hanks et Robin Wright. Et puis peut-être, je ne suis pas sûr, là, un film de Steve McQueen qui s'appelle Blitz. J'en suis pas sûr parce que je ne l'ai vu affiché nulle part, mais il est prévu de sortir ce film-là le 6 novembre sur les écrans nationaux. Voilà, donc Pierre, il vous recommande ça, j'ai bien compris.
Oh, beaucoup, beaucoup, Anora, allez voir.
Absolument, moi je recommande aussi oui. Anora, mais à l'inverse de Pierre, moi je recommande aussi d'aller voir Juré numéro 2. Pour le reste, bah, vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est vous qui voyez, comme on dit. Hein. Donc, eh bien, sur ces bonnes paroles, nous allons vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. On se retrouve autour des micros la semaine prochaine, à la même heure. Et donc, c'était Clap sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Un petit clap parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'actualité.